pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Cela ne se passe pas au Tibet, où l'immolation est devenue une forme pathétiquement courante de protestation contre la mainmise chinoise, ni en Iran, dans la province d'Elam, qui détient un terrible record de femmes se brûlant dans leur maison, par désespoir, par solitude, et quand elles sentent qu'elles n'ont plus aucun avenir. Cela ne se passe pas non plus en Tunisie, à Sidi Bouzid, à Kasserine ou à Tunis, avant l'émergence d'une révolution qui allait embraser toute la région. Cela se passe à Nantes, en Loire-Atlantique, devant l'agence Pôle emploi, mercredi 13 février 2013. Et cette année-là, en France, ce sont une dizaine de personnes qui ont tenté de se donner la mort par le feu, dont certains ont hélas réussi leur tentative. Juste après le décès de Jamel Char, à Nantes, le 15 février, un homme de 49 ans s'est immolé à Saint-Ouen, puis trois autres tentatives ont lieu le même jour, à Saint-Jean-de-Maurienne, à La Rochelle et à Beaune. Le 6 mars, un homme s'est encore immolé devant l'agence Pôle emploi de Colombes, et selon l'Agence nationale de Pôle emploi, les menaces se multipliaient encore cette année-là. À chaque tentative, bien sûr, son histoire. Et pour chaque histoire, une personne singulière, différente, un adolescent de 16 ans, un père de famille, avec chacun un passé, une vie, mais plus d'avenir. Pour chacun toutefois, un même mode opératoire qui dit le désespoir, l'urgence et la volonté surtout de faire connaître au monde, par ses flammes, une situation intenable et insoutenable. Aujourd'hui donc, c'est l'histoire de la personne et de la vie de Jamel Char que nous vous racontons jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, une émission diffusée pour la première fois le 25 mars 2013 à réécouter en ces circonstances préélectorales. Ici, on est dans votre maison à tous les deux. Hein
oui, c'est notre petit chez nous, notre petit cocon. Moi, ça fait 15 ans que j'habite là. Jamel, lui, est arrivé, entre guillemets, chez moi et chez ma fille. On habitait avant ensemble. Ouais. Puis, il s'est très bien adapté. Il avait une faculté d'adaptation un peu pour tout. Donc, j'imagine que pour la ville, c'était pareil.
Là, Nicole, vous m'avez sorti des photos, où ça?
Ça, c'est des photos à l'Île-Dieu, lorsqu'on était partis, parce qu'on a des amis. J'ai des amis très, très proches, une très, très grande amitié de plus de 30 ans avec des amis. Et Jamel adorait la mer. Et on est partis en week-end à l'Île-Dieu. Ça, c'est au festival à Bellabès, justement, où il s'était moqué un peu des danses bretonnes. Donc, il faisait un petit peu l'idiot. Voilà, c'est un petit peu un panel de photos de notre vie. Jamais j'aurais pu imaginer qu'il puisse arriver à un tel geste, même si effectivement, avec le recul, et je savais que Jamel n'était pas en forme, puisqu'il avait été lui-même aux urgences. Tout seul, il est allé au CHU. Un psychiatre l'a reçu, mais l'a renvoyé, enfin lui a dit qu'il fallait qu'il aille chez son médecin traitant. Donc moi, là, j'ai tapé un petit peu à toutes les portes. J'ai appelé un ou deux psychiatres qui m'ont un peu prise pour une folle parce qu'il n'y a pas de place. Au CHU, c'est pas la peine, il n'y a personne, il n'y a pas de place. Ce qu'on m'a répondu, c'est que si vous n'avalez pas des comprimés, et puis que le SAMU n'arrive pas chez vous, vous n'êtes pas pris en charge. Il faut passer par cette case-là pour être pris en charge. Donc moi, j'ai tapé à plusieurs portes en disant « il y a urgence ».
Qu'est-ce qu'il vous disait, Jamel, de son malaise ?
Je crois qu'il ne voulait même pas m'en parler pour ne pas me faire peut-être souffrir ou m'inquiéter ou mal. Il gardait tout en lui et j'avais beaucoup de mal à lui faire sortir les choses. Sauf que certaines fois, j'arrivais des fois à le prendre par les bras et les épaules. Il disait « tu me regardes ». Là, il a pleuré. Donc, à partir de ce moment-là, il a pris l'initiative d'aller et chez le médecin. Et ensuite, il a vu 2 heures un infirmier psychiatrique du CHU, en centre médico-psychologique, qui lui a fait du bien. Je n'ai pas perçu, moi, de changement. Bon, effectivement, il avait maigri, mais on mettait ça sur le compte du travail de nuit, qui était quand même physique, qui ne récupérait pas de la même façon. Quand je lui en parlais, il me disait « non, ça va ». Alors c'était ça, c'était un petit peu tout intérieur. Alors effectivement, il a senti qu'il devait sûrement être en danger pour avoir été au CHU tout seul, avoir vu le médecin, avoir tout ça. Les médecins et les psys disent qu'il n'y avait pas d'intention, là, à ce moment-là, suicidaire. Devant Pôle emploi, quand Jamel s'est immolé, la police était présente et Jamel le savait. Et justement, il a fait tout pour que ce geste ne soit pas arrêté, puisqu'il s'est immolé un petit peu en dehors de Pôle emploi. Et d'après la description de ce qu'on m'a dit, c'est qu'il est arrivé déjà en feu et il a fait 38 mètres. Il s'est écroulé devant Pôle emploi. Et là, ils étaient là et avec une couverture, ils ont essayé d'eux, mais c'était trop tard. Et pourtant, mardi soir, la veille, il a quand même appelé l'Algérie. Il a appelé sa maman pendant une bonne demi-heure pour l'entendre. Il a dit qu'on venait au printemps. Et je pense qu'il avait tellement une admiration et un respect pour sa mère qu'il avait besoin d'entendre. Mais son geste était déjà... Il avait déjà programmé tout ça et il n'y avait pas de retour possible. Mais le fait qu'il l'ait fait à Pôle emploi, c'est pas chez nous, c'est pas ailleurs. Pôle emploi, ça veut dire quoi? Bon, c'est un message, un ras-le-bol d'un système. Et en disant, si je le fais là, il faut que ça serve sûrement pour quelqu'un d'autre. Parce que ça correspond bien à Jamel. Et la preuve, son geste a été suivi par pas mal d'autres personnes après, dans la même détresse. Donc le message, quelque part, est passé. Mais je ne voudrais pas que ce message continue. Ce n'est pas possible. Il faut que les gens puissent parler, être écoutés. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Voyez la souffrance qu'on peut endurer après. Et ce n'est pas possible. C'est pas possible, il faut parler ou vous faire aider ou faire soigner, faire quelque chose, mais pas laisser vos proches ou... Je m'adresse directement à vous, mais... Le 39-49, vous le faites pendant en boucle, vous n'avez personne au bout du fil. Vous êtes radié parce que vous n'avez pas répondu à un rendez-vous. Enfin, des choses, mais inadmissibles à notre époque. Ça ne doit plus exister.
Vous avez envie, Nicole, de commencer par me dire tout ce que vous voulez rétablir comme vérité par rapport à ce qui s'est dit.
Moi, ce qui m'a le plus choquée, en fait, dans la presse, c'est le gros titre, c'était le chômeur, le travail au noir. Mais en fait, c'est quelqu'un qui travaillait tout le temps. Donc, pour moi, là, ce mot chômeur, il était de trop. Le travail au noir, il n'en a jamais fait. Et puis, le trop perçu, le fraudeur. Alors oui, il y a eu effectivement un trop perçu, mais il le remboursait. Donc, ce qui s'est passé avec Pôle emploi après, c'est ça. C'est la double peine, on punit. Même celui qui rembourse, on le punit, alors qu'il a ses heures. Alors, on lui décompte ses heures en fonction de ce qu'il n'a pas déclaré ou ce qu'il a oublié. J'ai pu voir le logiciel pour déclarer son activité. C'est une machine infernale. On doit déclarer le 31 du mois en sachant qu'un intérimaire, il a son bulletin de salaire et ses heures que le 11. Donc il doit inventer, enfin pas inventer, mais dire déjà un chiffre alors qu'il n'a pas la vérité. Et il doit réactualiser le 11. Donc ça fait source d'erreur. J'ai eu confirmation par les collectifs de chômeurs qui m'aident là justement dans toute cette défense. Parce qu'il va falloir que ça change maintenant et c'est ce qu'il faut.
Parce que je voudrais comprendre ce qui s'est passé vraiment... entre votre mari et Pôle emploi. Pourquoi est-ce qu'il est sorti de cette agence de Pôle emploi désespéré? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment?
Alors moi, au mois de décembre, effectivement, il avait encore du travail, de nuit, et il me disait, ça y est, j'ai mes 704 heures. Il savait très bien qu'il fallait 610 heures pour ouvrir ses droits. Et il me disait, si toutefois je n'ai pas de travail en janvier, parce qu'il y a une baisse d'activité, au moins on va être protégé 2 ou 3 mois et ça ira un petit peu mieux. Donc, il dit, je vais faire ma demande d'ouverture de droit. Donc, c'est ce qu'il a fait à partir de mi-janvier, il me semble, ou fin janvier. Suite à ça, il a reçu par mail, effectivement, sur son site, là, comme quoi son dossier était pris en compte. Et effectivement, je voyais bien que tous les jours, il était sur ce site pour voir si il avait une réponse. Et là, tout le temps, tout était bloqué. Et donc là, il a commencé à aller à Pôle emploi très régulièrement pour comprendre. Je sais qu'il a été reçu et qu'on lui a apparemment, après j'ai pas de preuves ou autre, expliqué que le fait de s'être trompé ou de ne pas avoir déclaré au mois d'août des heures, mais qu'il remboursait, ça je tiens bien encore à insister là-dessus, puisque ça s'est prouvé. Du coup, on appelle ça la double peine, on punit. On lui retire ses heures, c'est une loi du 6 mai 2011 de M. Sarkozy, et on lui a dit que non, il n'avait pas de droit, puisqu'il y avait la double peine.
Toutes les heures qu'il avait accumulées en travaillant ne comptaient pas pour l'ouverture de ses droits ?
Non, parce que du coup, le fait de ne pas avoir déclaré ou d'avoir fait des erreurs, on lui enlève ses heures. C'est ça la double peine, c'est qu'on décompte. Non seulement vous les payez, vous les remboursez, mais en plus de ça, on les soustrait du nombre d'heures que vous aviez acquis. Donc on repart de zéro, on repousse les droits des gens. Il fallait qu'ils retravaillent à nouveau un certain nombre d'heures pour les acquérir à nouveau.
Qu'est-ce qu'il faisait comme travail, votre mari ?
Alors en fait, il acceptait toutes les missions, il a tout fait. Il a fait de la préparation de commandes dans l'acier, il a fait du ménage au sein de multi-accueil, petite enfance, crèche. Il a fait de la restauration, de la plonge, il est allé dans un centre d'handicapés aussi, servir des handicapés les repas, préparateur de commandes aussi, agent de quai de nuit, de préparation aussi de tri.
Il n'avait pas d'autres formations
Si, lui, à la base, en fait, il a fait quand il était en Algérie, il a fait des études. Enfin, il avait fait ils appellent ça là-bas en Algérie, je ne sais pas l'équivalent, mais une maîtrise de comptabilité, parce qu'il était très chiffre, très matheux, et puis une grosse mémoire, donc voilà. Mais en fait, il a fait ça un peu par peut-être défaut, parce que ce n'était pas ça sa passion, c'était le théâtre, marionnettiste, décor, le son. Les enfants, une passion, même s'il n'avait pas d'enfants à lui, il avait un regard sur les enfants qui était d'une douceur enveloppante. Et donc, donner le sourire aux enfants par un spectacle de clown, c'était ça, c'était son univers artistique. Voilà. Tout ça, c'était un univers qu'il a complètement, arrivé en France en 2008, qu'il a laissé, au début, volontairement, je dirais, laisser derrière, peut-être pour vraiment la redémarrer autre chose. Et puis, je pense que petit à petit, vu la vie en France, malmenée quand même par le travail, on ne peut pas dire qu'il avait un travail et suivi et épanouissant. Financièrement, ce n'était pas facile. Il n'a pas retrouvé une activité épanouissante, pour son équilibre, en tout cas, en dehors d'un travail, malheureusement.
France Culture, les pieds sur terre.
Alors ici, on est à Nantes, dans un quartier tout neuf de Nantes, à Malakoff, devant une boîte intérim qui a donné la chance à Jamel, Et puis à partir de là, il a pu travailler. Donc là, on va aller les rencontrer, les personnes qui ont proposé des missions. Je sais que c'est des personnes qui ont été présentes aussi à la Marche Blanche après, là, qui m'ont accompagnée dans des démarches et qui sont vraiment des petites jeunes que j'ai trouvées vraiment formidables et que je tiens vraiment à remercier pour tout ce qu'elles ont fait et ça m'a beaucoup touchée.
Bonjour, bonjour madame, enchantée.
Merci de nous recevoir. Nicole y tenait.
Est-ce que vous voulez peut-être qu'on se mette un petit peu à l'écart ?
Même si je ne connais pas beaucoup Clémence, même pas du tout, elle a été importante pour Jamel. Il en parlait souvent de ce que vous avez pu faire, lui donner sa chance, tout simplement du travail. Donc je voulais vous remettre une petite photo pour que vous puissiez ne pas l'oublier.
J'ai gardé de toute façon celle que j'avais eue le jour de la Marche Blanche, justement. Je l'ai gardée aussi avec la petite carte que vous nous aviez envoyée.
C'est vrai que c'est quelque chose qui m'hante un peu, c'est de me dire l'oubli, en fait. J'ai du mal avec ça. J'ai peur de ça, mais bon, je sais bien. Mais il va falloir avancer dans le reste de la vie, mais c'est des choses qui en ce moment, ça fait juste un mois, c'est dur un peu, donc j'ai peur de l'oubli.
Quand vous avez vu le CV de Jamel,
oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors moi, je l'ai reçu, justement, je l'avais contacté par téléphone pour essayer de savoir ce qu'il voulait faire, ce qu'il attendait de nous aussi. Donc on s'est rencontrés et par la suite, je lui ai proposé donc sa première mission en tant que manœuvre sur un chantier. Et par la suite, il a enchaîné différentes missions au sein de notre agence et de chez nos différents clients. Je savais très bien que quand j'appelais Jamel et que je lui disais « dans une heure, il faut y être », il y allait. Ça, c'était quelqu'un qui avait la notion du travail et justement cette volonté de donner son maximum aussi. On a toujours eu que des bons retours sur son travail et sur ce qu'il a effectué, ouais. Mm-hmm.
Est-ce que c'était sur son CV, le fait qu'il soit un artiste, un comédien, un passionné de danse, passionné de musique ?
J'ai pas le souvenir, non, du tout. Je savais pas. C'est vrai que même lui m'en a jamais parlé, hein. Non.
Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé pour lui à travers ce geste aussi extrême ?
Du tout, non. Le jour où justement Nicole m'a appelée pour m'annoncer, je m'y attendais, mais jamais j'aurais pu penser que ça aurait été lui, mais jamais.
En fait, il est arrivé il n'y a pas très longtemps en France.
Eh bien, nous, on s'est rencontrés le 7 avril 2005 sur Internet. On est rencontrés en contact comme ça. Donc, je suis partie en janvier 2006. En grande aventurière, puisque tout mon entourage tremblait pour moi. Mon Dieu, j'allais être enlevée par un Algérien. Enfin, je ne vais pas dire le mot terroriste, mais presque, on va dire ça. Je m'en fichais. Moi, je le connaissais. Je savais au fond de moi que tout ce qu'il m'avait dit, raconté, j'avais eu sa famille au téléphone parce qu'il voulait vraiment je puisse être en toute confiance. Et quand je suis arrivée à Oran, je m'en souviens avec beaucoup d'émotion parce que la personne que j'ai vue et qui m'a fait visiter et puis qui m'a accueillie, c'est exactement la personne que le 7 avril 2005 et tous les mois suivants m'avait parlé, rencontré. C'était physiquement, c'était tout ce qu'il m'avait décrit, son pays, sa maman, sa famille. J'ai été très très bien accueillie, même si c'est chez eux, c'est vrai que c'était très difficile. Ils se sont mis en quatre pour que je sois bien. Enfin, vraiment, j'étais une reine. Et après, Jamel m'a entraînée dans son milieu, hein, donc, moi, je l'ai vu au théâtre, je l'ai vu aller dans les écoles faire le clown, je l'ai suivi dans une tournée en Algérie, à Sidi Bel Abbès. Hein. Ouais. Et puis, il a fait des tournées dans toute l'Algérie, hein, même pendant la période du terrorisme, c'est ce qu'il disait tout le temps, il faut que les enfants continuent à avoir le sourire. Donc, quand il arrivait dans un village en pleine montagne, la directrice, elle en pleurait, parce qu'elle disait, c'est pas possible que vous ayez pris ces risques-là. Ben si, pour lui, c'était important que l'enfant puisse encore continuer à sourire dans ces périodes-là. Il est venu en France grâce à un groupe, justement parce que là, ils ont eu une autorisation de venir pour danser. Donc, en 2008, et c'est là qu'on a pu effectivement se marier. Mais entre-temps, effectivement, j'ai fait des allers-retours en Algérie parce qu'il n'y avait que moi qui pouvais y aller. Et c'était pour nous, c'est ce que je disais, là j'ai une de mes collègues et amies surtout qui me disait « Nicole, ton château de cartes, là, il vient de s'écrouler ». Mais je lui disais, on a mis 3 ans pour rassembler nos cartes, on a mis 5 ans pour construire notre château, et effectivement, là, tout est parti. C'était une très belle histoire d'amour, et un amour vraiment sincère, parce que Jamel, c'est un très bel homme intérieur, mais aussi très bel homme physiquement. Et moi, je dirais un peu plus âgée, banale. Et je disais toujours à Jamel, mais enfin, qu'est-ce que tu me trouves avec, j'avais un peu de poids en plus que lui, tout ça. Et il me disait toujours, mais vous, en France, vous êtes bizarre, en Europe, vous êtes bizarre. Nous, une femme, c'est une femme qu'elle fasse 0 kilo. Il me disait, je dis, zéro, c'est peut-être pas Jojo, mais il me dit qu'elle fasse 0 ou 200, c'est pareil. Et il disait toujours à sa mère quand il m'a rencontrée, j'ai rêvé d'une femme, ça y est, je l'ai rencontrée. Et c'était une très belle histoire. Et des fois, je me dis... Tous les jours, il va falloir que je trouve aussi un but. Et donc, je me dis... Il y a sûrement quelque chose, il va m'aider de là-haut. Je pense à trouver peut-être ma voie. mais son absence là est terrible et j'ai des colères au fond de moi pour certaines choses.
Dominique, dite Dodo, c'est une amie, ça fait 28 ans hein, qu'on est ensemble, qu'on se connaît. Mmh. Et puis voilà, elle est là aujourd'hui, et puis elle est là depuis, et puis elle est là depuis le 13, et puis tout le temps. Donc,
Je suis très, très émue, et, parce que j'adorais Jamel, et c'était quelqu'un de super, un bon pote, qui nous a fait bien marrer, qui était hyper serviable. Qui était toujours là quand on avait besoin aussi. Et le seul regret, c'est de pas avoir pu l'aider au moment où il avait besoin d'aide. J'ai pas senti qu'il était si mal que ça. Et voilà.
Un jour, il m'avait dit j'en ai marre, je trouve pas de boulot. Moi, j'avais ressenti, sans qu'il me le dise, mais j'avais ressenti peut-être le fait qu'il soit algérien. Et je lui avais répondu, tu sais, moi, mon fils, il est français, et il n'en trouve pas non plus. Donc, c'est pas parce que t'es algérien, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas de taf. Et puis, c'est, les employeurs, ils ont un choix énorme, ils profitent. Mais bien que lui, il acceptait tout, des boulots très durs, qu'il y en a beaucoup qui n'auraient même pas accepté. Et il était hyper courageux. Mais bon, je pense qu'il il souffrait de pas trouver de boulot. Je pense qu'il aurait voulu un boulot stable et pouvoir envisager plein de choses avec Nini. c'est l'heure actuelle, c'est vrai que le boulot, c'est hyper dur à trouver. Hein. Et Jamel, je crois que là, il est parti et il a fait cet acte pour montrer pour que ça serve aux autres, je crois. C'est dramatique, c'est affreux, c'est tout ce qu'on veut, mais je pense vraiment que c'est un message social.
Oui, je suis Micheline, la belle maman de Jamel.
Moi, c'est Henri Aoui, c'est le beau-père de Jamel. Mmh. Oui, et puis j'étais secoué un petit peu de tout ce qui s'est passé, hein, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Hein. C'est un brave type, hein, gentil et tout, un bon garçon. Bon, parce qu'il est étranger, hein, il y a du bon monde partout, hein. La preuve. Hein.
Non, on n'a rien à lui reprocher.
Ah non, rien, aucun, rien. Il était très intelligent pour moi, plus intelligent que moi. Il était plus capable que moi à écrire une lettre. Il avait beaucoup de capacités. Hein. Il avait tellement une mémoire terrible qu'il se rappelait de tout. Hein. Et pour classer les choses, comme elle m'a dit la secrétaire de chez Chaillot, elle m'a dit, les 3 mois qu'il a passé chez nous, c'est le seul qui ne s'est jamais trompé dans les commandes. Et il avait une mémoire phénoménale. Hein. C'était un bon matheux. Je faisais pas de faute sur les écrits français, hein, c'était incroyable. Hein, que la secrétaire disait, quand il rentre dans notre bureau, c'est un rayon de soleil.
Oui.
Bon, elle était pleine de qualité, et puis vous savez, on a été secoués quand même. Hein, de sa perte.
Oui, moi c'est pareil. Je peux dire que du bien de lui. Il était gentil, il nous rendait service. Quand on avait besoin, on appelait Jamel. S'il était là, s'il ne travaillait pas, oui, j'arrive. C'est sûr que nous, on l'a vu peu avant, 8 jours avant.
Il est venu me dire au revoir,
Oh,
revoir.
On n'en sait rien.
Si, il est venu me dire au revoir. Il y a 3 semaines que je ne l'avais pas vu, c'était extrêmement rare. Puis Nicolas me dit, ça ne va pas trop fort. Et puis il a dit, tiens, je vais aller voir Henri. Il est venu me dire au revoir.
Je l'ai trouvé comme d'habitude. Je lui ai simplement dit, Jamel, ça va? Il m'a dit, oui. J'ai dit... tu te soignes bien, oui, ça va aller. Il m'a dit, ça va aller. J'ai dit oui, puis tu sais, l'hiver va passer. Lui qui travaillait de nuit, le jour, il dormait, il ne voyait pas le jour du tout. Bon, alors je lui ai dit, tu sais, ça va revenir, le printemps va arriver et ça ira mieux. Oui, il m'a dit, oui. Moi, je pense qu'il n'a pas été reconnu comme il faut. Dans son fond intérieur, il devait se dire, qu'est-ce que je fais là, quoi. Je pense.
On n'a pas vu venir le coup, ça nous est arrivé en pleine figure, on s'en est pas aperçu, hein, c'est tout.
On cherche qu'est-ce qui a pu l'amener là, à ce drame, quoi. Je veux dire, je sais pas. On sait pas. On cherche. Il aurait pensé à sa maman. Il aurait pensé. Il n'aurait pas fait ça s'il avait. Faut qu'il y ait quelque chose qui a craqué, quoi. Puis Pôle Emploi. Moi, Pôle Emploi, j'ai un petit peu de quelque chose contre eux, malgré que je peux pas trop incriminer le personnel. Je sais qu'ils ont du travail, c'est très dur aussi pour eux. Mais on écoute les gens quand même, et puis on leur dit pas tous les jours, vous avez droit à plus rien, vous êtes ceci, vous êtes radié, vous êtes ceci. Donc quand vous revenez tous les jours, et puis c'est pas un garçon qui devait s'exprimer beaucoup, il gardait en lui, ce qui aurait été mieux qu'il le dise à Nicole, hein, que ça sorte, quoi. Mais je crois qu'il voulait tout garder et faire tout seul, et puis voilà. No matter who suffers, who lies, no matter who's wrong and who's right, no matter who said who started the fight, there is one question I wanna ask. No matter who suffers, who lies, no matter who's wrong and who's right, no matter who said who started the fight, there is one question I wanna ask. Is there a place somewhere? Is there a place somewhere? Is there a place somewhere? Be no race, my heart sees the shades, my eyes are colorblind. Is there a place? Will there be no race? My heart sees the shades, my eyes are colorblind. Is there a place? Will there be no race? My heart sees the shades, my eyes are colorblind. Is there a place somewhere? Hey, hey, watch your back, 'cause they're up to no right. Watch your step, watch your back. Hey, and watch your back, 'cause they'll do you no bloody right. Watch your step, watch your back. Hey, and watch your back, 'cause they're up to no bloody right. Watch your step, watch your back. Hey, watch your back, 'cause they'll do you no bloody right. Watch your step.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec l'histoire de Jamel immolé, un reportage de Leïla Djitli, réalisé par Alexandra Malka et diffusé pour la première fois le 25 mars 2013. Au mixage, il y avait Alain Joubert et l'attaché de production, c'était bien sûr Sandrine Chaperon. Merci à Nicole Char, à Dominique, à Clémence, à Monsieur et Madame Aoui, ainsi qu'à toute la famille de Jamel Char depuis la première diffusion de cette émission il y a donc 4 ans. Sachez que le dossier de Jamel a été classé sans suite par la justice.